Bienvenue dans le podcast Nos Futurs, la parole à la relève, coproduit par Le Monde, Les Champs Libres, Sciences Po et la Métropole de Rennes. L'épisode que vous allez écouter s'intitule « Le vote est-il has-been ?» Ce débat a été enregistré lors de la troisième édition du festival Nos Futurs. Il est introduit par les étudiantes de Sciences Po ayant imaginé la rencontre et est animé par Le Monde.
Ah, désolée les filles, je suis un peu en retard, la conférence n'a pas encore commencé.
Non, t'inquiète pas, il y a encore des personnes qui s'installent.
Ok, ça va. Ah, une conférence sur le vote est-il has-been ? Bon, en parlant de vote, moi je pense pas que je vais aller voter aux élections européennes.
Ah bon, tu veux pas aller voter ?
Bah ouais, pourquoi ? Enfin, je veux dire, c'est un droit qu'on a.
Bah, en fait, je me sens absolument pas concernée et quand je regarde ce que proposent les candidats, je comprends rien du tout. Puis de toute façon, c'est toujours les mêmes qui sont élus, ça tourne jamais.
Je comprends vraiment pas cette façon de penser. Enfin, je veux dire, comment tu peux donner ton avis si tu votes même pas ?
Bah, je m'engage, mais de manière différente.
Le vote est un sujet qui soulève de nombreuses questions et sur différentes thématiques. Pourquoi autant d'abstention ? Traversons-nous une crise de la représentation ? Et au final, le vote est-il has-been ? Ces questions, naturellement, se sont retrouvées au travers de nos discussions, puisqu'en effet, nous faisons toutes les trois parties du collectif étudiant ayant mis en place cette conférence qui, nous en sommes sûrs, sera un moment riche en débats et en échanges.
Alors, à l'aube des élections européennes, on souhaitait interroger cette montée de l'abstention. Si certains l'aperçoivent comme le symptôme d'une démocratie en crise, d'autres, à l'inverse, la revendiquent face à un système de vote qui ne les représente plus. Car fuir les urnes n'est pas le synonyme d'un désintérêt de la politique, au contraire, l'abstention peut être un choix, celui de ne pas choisir. Et la participation politique ne s'arrête pas au vote. De nouvelles formes de mobilisation nous laissent entrevoir des possibilités d'alternatives à un système électoral parfois jugé insuffisant.
Notre but aujourd'hui sera donc de comprendre ce désintérêt et ses causes, mais aussi de savoir quelles peuvent être les solutions, les nouvelles formes d'engagement pour remettre au goût du jour la démocratie. Pour finir, nous tenons à souligner que cette conférence n'a pas pour but de pointer du doigt les personnes ne votant pas, mais plutôt de comprendre que l'abstention n'est pas nécessairement synonyme de désintérêt politique, bien au contraire, elle est l'expression d'une opinion à part entière. Alors voilà, il est temps pour nous de clore cette introduction afin de laisser place au débat et aux échanges avec nos invités spécialistes du sujet. Et nous vous souhaitons une bonne conférence.
Bonsoir à toutes et à tous. Je suis Emmanuel Davidenkov du Monde et j'ai le plaisir d'ouvrir cette première des 5 conférences que Le Monde organise dans le cadre de ce festival Nos Futurs. Conférence préparée, vous l'aurez compris, par, comme toutes les conférences et comme tous nos futurs d'ailleurs, par un comité éditorial composé d'étudiants, Maïwenn Texier, Bleuven Bidois et Margot Calais. Et donc vous allez les retrouver pendant tout ce débat puisqu'elles vont se faire les porte-parole des étudiantes et des étudiants, mais je vous donnerai aussi la parole pour échanger avec nos invités. Il y aura 4 temps, on va se demander avec Sandra Laugier pourquoi doute-t-on de la démocratie participative et représentative, pardon. Joli lapsus. Non, mais c'est bien si je donne la réponse avant. Ensuite, Manuel Cervera-Marzal explorera avec nous ce que nous racontent les nouvelles formes d'organisation ou de mobilisation. Et enfin, évidemment, je vous donnerai la parole pour un échange avec toutes et tous. Mais pour ouvrir les débats, merci d'accueillir Laurent Lardeux. Que sait-on du vote des jeunes ? Il est interrogé par Bleuven et Maïwenn. Bleuven.
Pour une première question, autour du vote des jeunes, pourquoi est-ce qu'il faut vraiment s'inquiéter de l'abstention chez les jeunes et pourquoi c'est vraiment préoccupant pour la démocratie ?
Alors, c'est vrai qu'il faut, réinsérer déjà le vote dans le fonctionnement de la vie démocratique. Et on sait aujourd'hui que les principales décisions qui sont prises par les partis, par également les élus, sont d'abord des décisions qui sont prises en relation quand même avec les résultats électoraux. Donc, dès lors que certaines catégories de la population ne votent pas, le risque évident, c'est de disparaître en fait des radars de la politique, d'être moins entendu. Ça a été dit aussi d'ailleurs au niveau du micro-trottoir tout à l'heure. C'est vrai que les principales décisions aujourd'hui passent par le vote. Bien sûr, pas uniquement, et on y reviendra sans doute tout à l'heure, parce qu'il y a d'autres modalités d'expression politique qui existent pour interpeller les décideurs, mais c'est vrai que ne pas être représenté au niveau des institutions, c'est un vrai danger démocratique, hein, d'où l'importance d'aller voter.
Maïwenn ?
Vous avez écrit un ouvrage en collaboration avec Vincent Thibert qui s'intitule « Génération désenchantée ». Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce terme et en particulier pourquoi l'utilisation du pluriel ?
Alors, au-delà du parallèle avec Mylène Farmer, hein, il y en a pas vraiment en fait, mais c'était un peu pour filer la métaphore. Et puis c'est vrai que c'était intéressant de reprendre ce titre-là parce qu'il est assez parlant aujourd'hui. On parle beaucoup, et puis le point d'interrogation est aussi important parce qu'on parle beaucoup d'un désenchantement de la jeunesse sur les questions politiques. Et c'est intéressant d'aller creuser cette question. Est-ce qu'il y a réellement un désenchantement et où il se trouve? Et quand on parle de désenchantement, on le constate bien sûr sur les questions de la vie politique et surtout de la vie démocratique au niveau de la démocratie représentative. Il y a un désenchantement de ce point de vue-là sur la politique traditionnelle, conventionnelle, sur le fait de participer à des partis politiques notamment, sur le fait d'aller voter. Et puis il y a aussi pas seulement un désenchantement par rapport à la vie politique traditionnelle, il y a aussi ce qu'on voit beaucoup, un réenchantement démocratique par d'autres modalités d'expression politique. Donc ça passe notamment par différents types de collectifs. On en voit beaucoup sur les questions du climat, sur la question des défenses des minorités, sur les questions liées au MeToo, LGBT+, etc. Donc on voit qu'il y a un ensemble de collectifs qui existent, qui apparaissent et qui viennent remettre en question un peu ce désenchantement dont on parle beaucoup. Donc il y a plutôt un réenchantement démocratique. Maintenant, la question est de savoir comment il peut y avoir des porosités avec la vie politique traditionnelle.
Bleuen.
En France, donc on peut voir que les taux d'abstention chez les jeunes ils sont assez élevés, mais est-ce que c'est vraiment une spécificité française? Par exemple, en Europe, comment est-ce qu'on pourrait comparer?
Alors, on le retrouve dans beaucoup de pays, en Europe, dans certains États nord-américains. Donc, bien sûr, c'est des tendances globales qu'on observe dans un certain nombre de pays. Maintenant, c'est plus ou moins affirmé, c'est plus ou moins important. En France, c'est vrai que le niveau d'abstention est beaucoup plus important que de ce qu'on observe, par exemple, dans le nord de l'Europe. On voit que dans le nord de l'Europe, l'abstention des jeunes est plus faible. Donc, ça interroge sur les raisons pour lesquelles... on a moins d'abstention des jeunes dans le nord de l'Europe et certains sociologues ont fait des parallèles avec des politiques publiques à destination de la jeunesse qui ne sont pas des politiques familialistes, c'est-à-dire qui ne passent pas, les aides à destination des jeunes ne passent pas par la famille mais passent directement du côté des jeunes. Et là, c'est un certain nombre de... Il y a des dispositifs comme ça qui existent et qui permettent de trouver une réassurance du côté de la jeunesse, une autre confiance politique et à l'inverse, les politiques plutôt familialistes, donc qui passent par le modèle familial, ce sont des politiques qui créent en fait beaucoup de défiance. Et donc il y a des parallèles comme ça qui sont faits très souvent et donc c'est intéressant de voir que en France on est plutôt dans une forme d'abstention, peut-être aussi parce que on a des politiques à destination de la jeunesse qui peut être éloignée de leurs aspirations et de leurs préoccupations.
Et on peut, je crois, se reporter entre autres aux travaux de Tom Chevalier sur ce genre de choses.
Exactement, voilà.
Ouais, qu'il arrive d'enseigner ici même à Rennes.
Dans ces politiques publiques-là, c'est l'école, elle aurait un rôle du coup à jouer pour, pour inciter les jeunes à plus participer, etc.
Oui, c'est une très bonne question parce que c'est vrai que la politisation, en fait, elle vient très jeune. On s'en rend compte aussi avec les mouvements en lien avec le climat, par exemple. On a rarement vu des jeunes aussi jeunes, en quelque sorte. Participer à des manifestations, participer même à des actions de désobéissance civile. Donc ça interpelle et on voit bien qu'il y a une socialisation politique qui est très affirmée déjà dès 14-15 ans. Et donc ce serait intéressant sans doute que l'école, les établissements scolaires aussi, prennent le relais aussi quelque part sur les enjeux de la politique, de la démocratie. Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Hein. Il y a bien sûr des cours d'éducation civique qui sont destinés aussi à mieux comprendre le fonctionnement de la démocratie. Mais souvent c'est une forme d'enseignement qui est un peu dépolitisé. En quelque sorte. C'est-à-dire qu'on va très rarement aborder, par frilosité aussi quelque part, par crainte de rompre avec la nécessité d'une neutralité de la part du corps enseignant, on voit qu'il y a des difficultés d'aborder ce système, cette structuration du champ politique. Et je pense que voilà, il y a peut-être des choses à faire de ce point de vue-là.
Donc vous avez parlé de la socialisation politique des jeunes. Et est-ce que cette socialisation, elle diffère en fonction du milieu social et familial?
Alors c'est vrai qu'on le voit déjà, que ce soit d'ailleurs pour la politique traditionnelle comme les participations, les formes de participation plus alternatives, c'est très lié aux origines sociales, c'est très lié aux conditions socio-économiques, c'est très lié aussi au niveau de diplôme. Et on voit que voilà, plus on est diplômé et plus on a de chances de participer aux élections. Ça c'est vrai à chacune des élections et puis à l'inverse, moins on est diplômé. plus on est aussi originaire d'un milieu social plutôt défavorisé, et moins on a de chances de participer aux élections. Et on le retrouve aussi, parce qu'on parle beaucoup des élections, mais c'est vrai que aussi pour un certain nombre d'actions qu'on peut observer dans des champs plus alternatifs, c'est vrai aussi qu'on observe, notamment sur les questions du mouvement pour le climat, par exemple, on voit qu'il y a quand même une certaine homogénéité sociale, culturelle, avec plus de difficultés à capter en fait une jeunesse des quartiers populaires, par exemple, une jeunesse qui vit en milieu rural ou dans des territoires périurbains. Donc on voit que voilà, on a plutôt affaire à des jeunes plutôt de centre-ville et plutôt diplômés qui vont participer à ce type d'action, comme ils vont avoir plus de chances d'aller voter. Donc c'est vrai que c'est important, parce que non seulement on en parle beaucoup, on dit que les jeunes votent moins, il y a un risque effectivement d'être moins présent dans la vie politique actuelle et d'être moins pris en compte par les politiques, mais non seulement la jeunesse vote moins, mais en plus il y a une certaine catégorie de jeunesse qui vote pas ou pas du tout. Donc là c'est un vrai risque pour cette jeunesse-là, plus précarisée, qui a pourtant énormément de choses à défendre et qui pourtant, voilà, quand il s'agit d'aller voter, sera moins présente, donc avec le risque et moins de relais politiques après pour prendre en charge un peu leurs préoccupations et leurs aspirations.
Cette désaffection, ce désintérêt des jeunes vis-à-vis de la démocratie représentative, on en parle beaucoup aujourd'hui, mais est-ce que c'est un phénomène récent ou ça, on a toujours observé ça au cours de l'histoire?
Alors c'est pas un phénomène vraiment récent, hein. Déjà quand on parle d'abstention, c'est pas quelque chose de nouveau, l'abstention notamment des jeunes, on le voit déjà depuis les années 80, il y a un différentiel de participation entre les 18-29 ans et puis l'ensemble des Français qui est quand même de entre 15 et 20% par exemple pour les présidentielles. Donc ce différentiel il est pas nouveau. Par contre non seulement il est pas nouveau, mais en fait aussi on voit que l'abstention augmente pour l'ensemble des catégories d'âge, donc pas seulement pour les jeunes, mais aussi pour les générations actives. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que ça vient interpeller sur le fait qu'on a souvent tendance à penser qu'il y a un effet d'âge sur la question de l'abstention, c'est-à-dire qu'on vote moins, que les jeunes votent moins, tout simplement parce qu'ils sont jeunes, qu'ils sont dans un moratoire civique, pour reprendre les termes d'Anne Muxel, une sociologue, et que voilà, c'est une période de transition, et puis ils vont s'insérer dans la vie familiale, professionnelle, et puis ils auront tendance à aller voter. Donc ça, c'était un effet d'âge sur lesquels on a beaucoup travaillé. Et puis après, on a vu que ça se prolongeait dans le temps, et on a des enquêtes qu'on appelle longitudinales, c'est-à-dire on peut suivre des cohortes de naissance. C'est-à-dire qu'on peut suivre, par exemple, les jeunes des années 90, en vieillissant, est-ce qu'ils sont restés abstentionnistes? Est-ce qu'ils sont restés défiants vis-à-vis de la politique traditionnelle? Et ce qu'on peut voir, grâce à ces enquêtes longitudinales, c'est que les jeunes des années 90 qui étaient défiants, qui étaient plus abstentionnistes, le sont restés en avançant dans les classes d'âge, en fait. Et donc on voit bien qu'il n'y a pas qu'un effet d'âge qui serait lié à leur jeunesse. Il y a un effet de génération, le fait d'appartenir à une génération qui est plus dans une société critique va faire que voilà, il y a un prolongement, et donc c'est un phénomène durable qui met en difficulté la vie démocratique actuelle dès lors que ça se généralise et que ça se diffuse pour l'ensemble des générations.
Maïwenn, ensuite je vous passe la parole.
Vous avez parlé des jeunes qui peuvent être éloignés du processus électoral, notamment les ruraux, les périurbains. Est-ce que vous auriez des pistes pour pouvoir les réintégrer dans ce processus électoral?
Alors c'est toujours des questions compliquées pour des sociologues parce qu'on a plutôt tendance à
c'est
constater
la carte sociologue, ça.
Et voilà, et du coup on est toujours un peu plus en difficulté quand il s'agit d'apporter des solutions. On essaye d'alimenter la réflexion et par nos données, par nos connaissances, par les analyses qu'on peut faire, on essaye de donner notamment aux élus aussi les mécanismes pour essayer de réenchanter la vie politique. Mais on sait très bien que on voit qu'il y a des porosités en fait entre le champ de la protestation et puis celui de la vie politique plutôt traditionnelle. On voit, et on a souvent parlé des formes, et on en a vu beaucoup récemment, des interpellations de la part des citoyens qui étaient plutôt éloignés a priori de la vie politique traditionnelle. On l'a vu avec les Gilets jaunes, on le voit régulièrement en fait, des collectifs de citoyens qui a priori rien ne présageait qu'ils allaient interpeller le politique, et pourtant ils sont bien présents. C'était le cas des agriculteurs aussi aussi récemment. Donc ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a une vraie nécessité de prendre en compte en fait ces catégories de population qui a priori sont éloignées, mais qui en fait ont énormément de choses à dire. Il n'y a pas de désintérêt politique. Disons que c'est ce qu'on voit, et très clairement ça apparaît dans tout plein de travaux scientifiques, c'est que c'est pas parce que les citoyens votent moins qu'ils sont désintéressés, et c'est même tout le contraire qui se passe. Il y a deux tendances croisées. Il y a certes une abstention qui croît à chacune des élections, et puis en même temps il y a un intérêt très affirmé pour la politique qui tend à augmenter en fait. Et ça c'est quand même ça doit interpeller sur la nécessité de prendre en compte les préoccupations, les aspirations des citoyens, et d'avoir des vraies campagnes électorales qui ne s'arrêtent pas aux simples joutes verbales qui intéressent finalement très peu notamment les jeunes, et la nécessité de vraiment parler en tant que tel dans une campagne des mesures à prendre, de parler des enjeux politiques, démocratiques qu'il peut y avoir, de parler des enjeux des institutions et de leur rôle aussi dans la vie démocratique actuelle.
Merci beaucoup. On va se retrouver en fin de débat pour débattre avec tout le monde. Et si vous avez déjà une ou deux questions très précises sur ce que vient de dire Laurent Lardeux, on peut les prendre. Monsieur, au premier rang. Deuxième,
pardon. Bonsoir. J'ai l'impression que vous partez du postulat que si on ne vote pas, on ne va pas être représenté dans les décisions nationales, en fait. Alors, je suis d'accord avec vous que le fait que les quartiers populaires ou les anciens territoires industriels ou les pays agricoles, peut-être, ne s'intéressent pas à la politique, ça, ce serait un problème. Mais pas forcément le fait de voter, puisque justement, lorsque les agriculteurs se rebellent, c'est là qu'ils sont écoutés et non pas par le vote. Lorsque les gilets jaunes descendent dans la rue, c'est là où il peut y avoir des choses à bouger et non pas s'ils votent. Et de même que pour les quartiers populaires, même si ce n'est pas souhaité, j'ai l'impression que c'est s'ils faisaient la révolution qu'ils seraient écoutés et non pas par le biais du vote. Donc voilà, c'était pour vous questionner là-dessus, même si j'ai pas de réponse personnellement.
Oui, non, mais c'est une vraie question. C'est vrai qu'on voit que les formes d'interpellation comme ça peuvent avoir leur efficacité. Le vrai problème qui se pose, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'il faut en arriver à ce type d'interpellation ? Et ça veut dire aussi peut-être que leurs préoccupations n'ont pas été prises en compte, tout simplement parce que peut-être qu'ils ne sont pas allés voter avant. Donc c'est, mais effectivement, l'effet que ça produit.
Il y a un côté le fait la poule, quoi.
Bah tout à fait, c'est ça. Voilà. C'est intéressant, c'est en tout cas, de se poser la question. On voit que ces formes d'interpellation. Et quelque part, c'est toute la contre-démocratie dont parle Pierre Rosanvallon. On voit que cette contre-démocratie, elle vient perturber les rouages de la démocratie représentative. Mais elle a son rôle dans la démocratie. La démocratie ne s'arrête pas que à cette démocratie représentative, mais passe aussi par les citoyens, et dont font partie ces manifestations, les marches, les actions de désobéissance civile également.
Madame, monsieur et Sandra Laugier.
Je voulais savoir, est-ce qu'on a un peu une idée de... pour dans quel sens votent les jeunes. De ce que j'imagine, c'est que c'est plutôt à gauche. Dans ce cas-là, est-ce qu'il y a vraiment un intérêt pour les politiques au pouvoir ou l'extrême droite d'aller faire en sorte que les jeunes votent plus ?
Alors, ce qu'on peut voir déjà par rapport aux dernières élections en 2022, on a beaucoup parlé de la tripartition du champ politique entre un vote libéral, un vote national conservateur en quelque sorte, et puis un vote social écologiste en quelque sorte, qui était porté soit par Jean-Luc Mélenchon, soit par Marine Le Pen ou par Emmanuel Macron. Donc cette tripartition du champ politique, c'est vrai qu'elle existe pour les catégories d'âge de plus de 30 ans, finalement, mais par contre, quand on regarde les jeunes, on a plutôt une polarisation qui est très forte, en fait, et qui se joue sur la question des valeurs culturelles. Les valeurs culturelles, c'est-à-dire toutes les questions qui relèvent de l'autorité, qui relèvent, bien sûr, des questions liées à l'immigration. Et on voit que c'est extrêmement polarisé, et ça se manifeste aussi par cette polarisation qu'on observe au niveau des élections.
Et donc, polarisation entre le pôle national conservateur et le pôle... écologiste.
Social-environnemental, voilà. Écologiste.
En fait, pour répondre clairement, ils ne votent pas du tout spécialement à gauche, ils votent aussi à l'extrême droite. Voilà.
Oui, donc okay. on a ces deux tendances-là. Maintenant, on a, et c'est tout le danger en fait, quand on essaie de faire des surinterprétations et d'extrapoler en pensant que ce type de vote et ces polarisations-là, on aurait tendance à penser que ça clive le champ des valeurs. Il ne faut pas oublier aussi qu'il y a un ensemble de baromètres qui existent aujourd'hui, un ensemble d'enquêtes qui montrent bien que sur les questions liées à la tolérance par rapport aux minorités, à l'immigration, sur les questions d'autorité, notamment, on voit que les jeunes sont beaucoup plus ouverts qu'ils ne l'étaient dans les années 90. Donc ça, c'est
oui,
très important de le rappeler.
Avec Vincent Tibéri sur la tolérance à l'homosexualité, si je me souviens bien, où en 30 ans, on passe de 20 à 90%.
Voilà.
Sur donc, l'ensemble des jeunes, là, pour le coup.
Exactement. Donc, on voit qu'il y a quand même des degrés d'ouverture qui sont beaucoup plus affirmés aujourd'hui qu'ils ne l'étaient il y a quelques années. Même si, dans le champ politique, par contre, il y a une polarisation qui est très forte et on voit qu'il y a aussi une jeunesse qui est attirée par l'extrême droite. Peut-être pas par les thèses de l'extrême droite, mais en tout cas par un vote protestataire. Et c'est peut-être la nuance qu'il faut faire aussi.
Merci beaucoup. On peut remercier chaleureusement Laurent, qu'on retrouvera tout à l'heure. On va remercier également Maïwenn, qu'on retrouvera aussi tout à l'heure. Bleuen reste. Et on accueille d'un même mouvement Sandra Laugier et Margot, qui va l'interroger avec Bleuen. Sandra Laugier, professeure de philosophie à Paris 1, Panthéon-Sorbonne, autrice de plein d'ouvrages. J'ai choisi de citer Le principe démocratie parce que ça renvoyait bien à notre thème aujourd'hui avec Albert Rogien. C'était à la découverte il y a 10 ans. Et ce deuxième temps, on se demande pourquoi doute-t-on de la démocratie représentative. Je ne sais pas qui, de Bleuen ou de Margot, commence.
Bonjour Sandra, merci d'être là. Pour commencer, on voulait voir avec vous quelle était votre définition de la démocratie représentative.
Alors, j'ai une définition de la démocratie, en tout cas, qui est que la démocratie, c'est vraiment une forme de vie où chacun peut s'exprimer et où il y a une égalité entre les personnes. C'est pour vous dire que la démocratie représentative, c'est vraiment un style particulier de démocratie et qui n'est peut-être pas, en fait, toutes les formes de démocratie. Et la démocratie représentative, c'est effectivement une forme de démocratie qui est assez institutionnelle, on va dire, puisqu'elle va vraiment s'articuler autour des élections, hein, avec l'idée que donc on va élire des représentants, hein, qui vont s'exprimer pour vous. Donc évidemment, c'est un moment important de la démocratie, ce que nous avons toujours défendu, Albert Rogien et moi, dans les livres sur la démocratie que nous avons proposé, c'est que, en fait, la démocratie, ça n'est pas seulement, en fait, quelque chose qui se passe au moment de ces élections et de ces rites un peu républicains, mais c'est quelque chose qui a lieu tout le temps, en fait, et donc qui vraiment à l'œuvre dans des mouvements, de l'activisme et toutes sortes de formes de vie qui vont en réalité représenter aussi la démocratie. Donc voilà, la démocratie, ça n'est pas seulement la démocratie représentative, mais c'est important aussi.
Oui, parce que du coup, là, quand on voit, par exemple, les derniers votes aux présidentielles, on a beaucoup parlé de vote utile, vote de barrage, etc. Du coup, est-ce que c'est encore pertinent de parler de démocratie représentative en France, puisque ça ne représente pas forcément ce que les électeurs ou les opinions des électeurs à la base?
Alors, en fait, c'est vraiment différentes situations. Hein. Par exemple, rien ne dit, il y a vraiment des réflexions là-dessus, hein, chez les politistes, dont je ne suis pas, rien ne dit que si plus de gens votaient, les résultats seraient très très différents. Hein. Il y a beaucoup de discussions autour de cela. Par ailleurs, quand on parle de démocratie représentative, c'est vrai qu'on pense quand même d'abord au système parlementaire. Hein. Donc il y a des élections et l'Assemblée qui va décider de certaines choses. En réalité, je crois que ce qui fait vraiment un problème en ce moment avec la démocratie représentative, c'est à quel point le Parlement, l'Assemblée n'est pas du tout représentative, en fait, de la société, hein, dans sa composition, dans sa diversité, hein, sociale en particulier, hein, la part d'ouvriers, de paysans, etc., complètement disparue. Donc, effectivement, il y a une représentativité par le vote, mais il n'y a pas de véritable représentativité sociale telle qu'on la pense encore aujourd'hui. Hein. Quand on veut un groupe représentatif, on va plutôt essayer d'avoir un groupe représentatif de la composition de la société, mais là, ça n'est pas le cas. Après, pour les élections présidentielles, hein, c'est vrai que là, il y a eu une forte part d'abstention, hein, dont vous parliez tout à l'heure, hein, et donc l'idée que peut-être, là, c'est pas la peine d'aller voter. Hein, donc, ça m'a beaucoup intéressé, bien sûr, hein, ce que vous avez dit et le micro-trottoir. Moi, j'avoue, je fais partie d'une génération. Alors, c'est peut-être le fait du hasard, mais la première fois que j'ai voté, c'était en 81, et donc c'était Mitterrand, et ça a marché. Donc, pour moi, il y a vraiment un pouvoir magique du vote, en fait, et depuis jamais. Alors, là, j'adore le vote, quoi. Chaque fois, j'y vais, même si ça marche vraiment.
Mais ça ne remarche pas tous les coups, Sandra, quand même.
Ça ne marche pas du tout.
Si vous me permettez.
Ouais, tout à fait. Mais c'est vrai que ça reste quelque chose de magique. Et puis, ben, aujourd'hui encore, hein, c'est vrai que je vois les gens qui n'ont pas envie d'aller voter, mais bon, quand on vous dit que dans certains pays, les gens peuvent pas voter, qu'aux États-Unis on raye les Noirs des listes électorales. Enfin, vous êtes quand même révoltés, vous ne trouvez pas ça super. Donc voilà, et puis tout le monde aime le vote, même Poutine, il aime le vote, il est ravi, tous les dictateurs, ils sont contents en fait d'organiser des votes. Donc en réalité, le modèle de la démocratie représentative, le modèle du vote, il est quand même assez universel et assez attractif, quoi qu'on en dise.
Merci pour votre réponse. Nous, il y avait aussi un sujet qu'on souhaitait aborder, notamment dans notre vision de jeune étudiante, c'était aussi quel est le véritable poids en fait, des intentions de vote, des sondages qui sont l'outil principal qu'utilisent les médias souvent au moment des élections, qui, comme vous l'avez dit, sont souvent un peu le summum de la démocratie représentative. Nous, notre question, c'était vraiment de savoir, oui, quel était le poids sur justement la perception du vote et les intentions de vote. Est-ce que ces sondages, ils changent les choses peut-être dans la vision des gens?
Alors, je ne suis absolument pas spécialiste de ce genre de questions. Hein. Je n'en ai aucune idée, mais je pense que ça n'a aucune pertinence, en fait, cette histoire de sondage, visiblement. Il n'y a jamais de... Les résultats sont jamais, en fait, réellement conformes au sondage. Mais je crois que c'est aussi parce que le concept même d'opinion publique est un concept qui, maintenant, est vraiment devenu assez flou, en fin de compte. Qu'est-ce que c'est que... Est-ce qu'il y a vraiment... une opinion publique, est-ce que c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte? Il y a des individus qui vont aller voter, il y a des mobilisations de personnes qui vont en fait décider à tel ou tel moment de s'engager en votant ou autrement, hein, comme vous le disiez. Mais je ne sais pas en fait si justement la question de l'opinion publique est très souvent très conformiste et très préfabriquée en fait.
Et je me permets de compléter en disant qu'il y a un examen critique au sein des médias sur l'utilisation des sondages, notamment au Monde, mais pas que, qui les utilisent moins aujourd'hui qu'avant, y compris parce que quand on regarde la façon dont ils sont produits, parfois c'est pas d'un sérieux considérable. Donc voilà, mais vous avez raison, c'est une bonne question.
C'est vraiment très, très, très pertinent comme question. Et je crois que ce qui, par exemple, pose vraiment problème, c'est... Un gouvernement des sondages, hein, on parle beaucoup maintenant, au lieu d'avoir une vraie politique avec des idéaux, on va essayer de suivre quelque chose qu'on imagine être l'opinion, et ça c'est quand même vraiment le degré zéro.
Hein. Jean, c'est plus les politiques qui sont tributaires des sondages que les médias aujourd'hui.
On aurait parlé des réseaux sociaux, qu'est-ce que c'est l'impact des réseaux sociaux sur la démocratie représentative en termes de participation citoyenne, de formation de l'opinion publique et de responsabilité des représentants envers leurs électeurs?
Alors, je pense que les réseaux sociaux, au début du siècle en particulier, ont joué vraiment un rôle important dans une sorte de démocratisation de l'accès à l'information et puis à l'expression. C'est vrai qu'on parlait, par exemple, de tous les mouvements qu'il y a eu d'occupation dans les printemps arabes, enfin, les années 2000 et 2010. C'est vrai que là, le fait qu'il y ait eu cette espèce de communication, de visibilisation des autres mouvements pour ceux qui étaient engagés, ça a été quelque chose qui était très, effectivement, vraiment assez consolidant et encourageant. Et il y a eu une forme de démocratisation de l'expression. Je crois que maintenant, on est quand même un petit peu revenu hein, de cette vision des réseaux sociaux, hein, qui quand même sont très souvent aussi maintenant transmetteurs de fake news, de fausses informations et de discours qui sont globalement détestables. Hein. Donc je ne pense pas du tout qu'on puisse s'appuyer maintenant sur les réseaux sociaux pour développer la démocratie. Je pense que la démocratie, elle se fait vraiment dans l'engagement des citoyens sur le terrain et avec, disons, l'idée qui s'est développée de plus en plus qu'il y a en fait une compétence des citoyens, citoyennes bien sûr, hein, pour décider ce qui est bien pour eux. Et donc cette idée-là, c'est vrai qu'elle s'est aussi formée dans les réseaux sociaux, mais elle se forme aussi dans l'activisme au quotidien, dans les mouvements dont vous parliez, environnementaux, féministes, antiracistes, etc. Et c'est ça qui fait en fait l'éducation, la compétence politique. Et je pense que cette question de la représentativité que vous posez, elle est vraiment liée à ça parce qu'on a des citoyens qui, en réalité, revendiquent une compétence que, finalement, beaucoup de politiques leur nient en disant que c'est eux les personnes compétentes, sont les experts. Et donc, il y a là cette espèce de rupture hein, que l'on constate très souvent entre, effectivement, les citoyens qui ne se sentent pas représentés, qui ne se sentent pas entendus et qui ne se sentent pas respectés en tant qu'acteurs politiques parce que on a un discours qui va être celui d'une classe politique, d'experts, qui va savoir mieux que les personnes. Et bien, ça donne tous les mouvements de rejet qu'on a eu toutes ces dernières années.
Merci pour votre réponse. Justement, c'était aussi un de nos questionnements, puisqu'on voit souvent que l'électorat a une impression de déconnexion avec ses élus. Et nous, notre question, c'est est-ce qu'il est possible de trouver un moyen, justement, de permettre que, disons, les élus soient plus en phase avec leur électorat et répondent davantage à ce qu'ils ont pu promettre aussi?
Alors, bien sûr, hein, la question des promesses, elle est très importante, puisque beaucoup des élus se font élire sur un programme. Mais en général, ils ne respectent pas du tout, hein, pas du tout ce programme. Hein, et donc, bon, y compris aujourd'hui avec le gouvernement, par exemple le gouvernement Macron, qui avait un certain nombre d'engagements par rapport à la partie de gauche de son électorat qu'il ne tient pas. Mais plus généralement, au niveau local, c'est vrai qu'on a en fait l'impression qu'on prend des engagements pour être élu, mais qu'ensuite, ces engagements n'engage pas. Et c'est quelque chose qui devrait être effectivement choquant, mais qui ne choque pas, sauf en réalité quand, bon, c'est quand même arrivé plusieurs fois ces dernières décennies, que des gouvernements se fassent éjecter par des élections parce qu'ils n'ont pas tenu leurs promesses, hein, que ce soit en Espagne, en Angleterre. Donc malgré tout, l'intérêt du vote, et c'est un intérêt qui n'est pas à mince, hein, c'est justement quand même de sanctionner en fait des gouvernements qui ne tiennent pas leurs engagements. Et ça, c'est extrêmement important. Et j'insiste sur le fait que le vote, ça marche hein, souvent. C'est ça que je pense qu'il faut dire aussi aux abstentionnistes. Ça arrive qu'on arrive à faire élire quelqu'un. Regardez Joe Biden, il y a 4 ans, dont personne finalement pensait grand-chose et qui arrive à se faire élire contre Trump sortant. Pourquoi ? Parce qu'il a réussi à rassembler avec lui les minorités, Black Lives Matter, MeToo, etc. Et c'est ça les 2 ou 3% qui peuvent en fait faire passer. Donc les personnes qui ont voté pour lui, même s'ils ne l'adoraient pas, mais pour faire passer leurs idées, en fait, ils ont eu raison. Hein. Donc à chaque fois, en fait, le vote de quelques personnes peut en fait faire basculer, puisque aujourd'hui, il n'y a pas d'énormes révolutions massives par le vote. Hein. C'est quand même des marges qui sont pas énormes, sauf si on se débrouille pour mettre le Front National au second tour. Mais sinon, voilà, c'est quand même ces petites marges qui font que chaque voix est importante. Et aux États-Unis, il y a eu vraiment cette idée de reclaim the ballot, hein, de vraiment réclamer le vote, d'arriver à voter pour arriver à faire entendre ses intérêts. Et je ne dis pas que la France est en retard là-dessus, mais en réalité, il n'y a pas eu cette volonté dans les partis traditionnels, hein, comme il n'y a guère plus traditionnel que le Parti démocrate américain, mais en France, il n'y a pas eu de capacité finalement de s'accrocher à ces mouvements qui sont les mouvements des minorités, les mouvements vraiment populaires aussi, pour arriver à les mobiliser.
Une dernière question, du coup, dans la vidéo qu'on a vue, il y avait un jeune qui disait « Oui, moi j'aimerais bien faire plus de référendums, etc. » Et est-ce qu'on peut, ce serait imaginable, voilà, en France aujourd'hui, de faire plus de ce genre de concept de démocratie directe, je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça, des référendums ou des consultations populaires, est-ce que ça marcherait vraiment et ça pourrait être un moyen aussi de sanctionner voilà, les élus pendant leur mandat?
Alors, de toute façon, ça a été tenté de nombreuses fois ces dernières années, hein, puisque après les Gilets jaunes, il y a eu le grand débat, après Donc il y a une grande consultation sur le climat, etc. Donc il faut bien se rendre compte que les gouvernants se rendent compte qu'il y a ce besoin-là, qu'il y a ce désir-là, et ils créent ces espèces de mini-démocraties participatives dans un espace restreint avec des personnes qui, en fait, ne vont jamais les gêner, proposer quoi que ce soit qui va, qui va être réellement contestataire. Et si parfois ils proposent des choses qui ne vont pas, on les supprime, hein, mais malgré tout. Hein, donc c'est vraiment des parodies de démocratie participative, mais ça montre malgré tout qu'il y a une volonté, qu'on sent un besoin de démocratie et de véritable implication des citoyens. Et donc ça, c'est un point très important parce qu'il y a vraiment une volonté de participation. Le référendum, c'est encore tout autre chose. Hein. C'est pas, voilà, c'est un vote. Donc ça peut susciter un débat, c'est intéressant, mais vraiment vraiment nécessite en fait d'être développé, c'est cette prise en compte en fait des citoyens dans les décisions. Et donc il y a eu quand même des éléments, il y a eu quand même des tentatives, mais on en est extrêmement loin, tout simplement parce que il y a vraiment ce que vous appelez la déconnexion. Hein. C'est vrai qu'on a un personnel politique aujourd'hui qui n'est pas du tout en fait en prise sociologiquement aussi avec les préoccupations ordinaires des citoyens.
Merci beaucoup. Ce qui s'est fait quand même sur de longues années, me permettre, hein, puisque les travaux notamment de Frédéric Savicky sur le Parti Socialiste montrent que ça fait belle lurette que, pour parler de la gauche, que les classes populaires ont été exclues de la représentation publique, etc. etc.
Enfin, ouais, je prends
cet exemple parce que je l'ai en tête, mais il y en a d'autres.
Oui. C'est très juste. Non, je ne dis pas que ça, c'est récent, hein, mais
non,
ça
non, tout
apparaît.
À fait. Mais c'était juste pour.
C'est très important.
Ouais. Pour le réancrer. Alors, allons-y. Gardez-nous quelques questions pour la fin. D'abord, on a encore Manuel Cervera-Marzal, puis ensuite, ils seront tous là. Monsieur.
Alors, deux petites choses. La première, vous avez évoqué les élections aux États-Unis. Je rappelle quand même qu'aux États-Unis, la participation est excessivement faible. C'est moins de 50%. Quand on arrive à 50%, c'est un exploit. Il a été évoqué la question du référendum. Moi, j'ai été fouillé un petit peu avant de venir. En France, depuis l'année 2000, il a été organisé 12 référendums régionaux, nationaux. Dans 11 cas sur 12, il a été mis en place exactement le contraire de ce pourquoi les gens avaient voté. Je rappelle très vite, hein, quelques exemples, référendum en Corse en 2003, référendum en Lorraine, référendum en Nouvelle-Calédonie, référendum dans les Antilles, et évidemment, le plus connu, c'est le référendum de 2005, référendum sur la fameuse Constitution européenne, où une fois que ce référendum a été fait, Nicolas Sarkozy s'est empressé de faire exactement le contraire de ce pourquoi les gens avaient voté. Ça explique peut-être un peu la défiance qu'on peut avoir vis-à-vis du vote qu'il y a. Ça explique ça. D'autres derniers points, malgré, parce que ça a un côté un petit peu défaitiste, ce que j'entends, je rappelle quand même qu'en France, c'est le pays certainement où on vote le plus, où la participation est la plus forte. Parce que c'est tout à fait surprenant de voir dans des pays de l'Est qui se sont souvent battus pour avoir le droit de vote, des participations qui tournent à 25-30%.
Merci, monsieur. Je ne sais pas si ça appelle une réaction.
Non, c'est très juste, hein, mais je dis bien que quand même ce référendum sur l'Europe 2005, je pense que ça a été malgré tout un tournant
c'est une rupture
dans le fonctionnement démocratique, parce que le fait qu'à ce point on ne tienne pas compte de l'avis du peuple pour une question aussi fondamentale, je pense que là, c'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire et qui explique beaucoup de choses dans la relation à l'Europe aussi.
Monsieur.
Bonsoir. Le fait justement que vous disiez les politiques font des promesses, une fois qu'ils sont élus, ils ne respectent pas leurs promesses. Si la grande majorité de la population se met à voter, qu'est-ce qui changerait fondamentalement à cette problématique-là? Et aussi le fait que, les votes sanctions, on a un gouvernement, en tout cas un président qui est élu pour 5 ans. Pendant 5 ans, il fait ce qu'il veut. Il y a des manifestations dans les rues qui ne sont pas vraiment écoutées, etc. Le président c'est tous les 5 ans, les députés aussi. En fait, on a beau avoir des gouvernements successifs qui changent régulièrement, il y a dans les actions, il y a rien qui change en fait.
Ça arrive qu'il y a un vote sanction, hein, c'est quand même arrivé plusieurs fois ou même que des, des présidents sortants ne se représentent pas. Là, c'est vrai qu'avec Macron, c'est difficile de le sanctionner, mais il y a quand même d'autres élections. Il y a quand même les municipales, il y a quand même les européennes, il y a les législatives. Donc, il y a quand même possibilité. Hein. Il ne faut pas toujours focaliser, finalement, sur l'élection présidentielle. Hein. On est un peu trop comme ça. Mais vous avez raison.
Monsieur.
Bonjour. Je précise que mon propos va être peut-être un petit peu défaitiste, mais je précise quand même que je suis élu municipal. Donc ce que je vais dire, il faut le prendre avec des pincettes. En regardant un petit peu les choses qui se disent sur la démocratie, la République, etc., on se rend compte que ça fait quand même longtemps que parmi nos élites, et j'ai eu la surprise de lire ce qui se disait à l'époque de la Révolution française, on opposait République et démocratie. C'est-à-dire que la République semblait la forme parfaite de la démocratie, c'est-à-dire la représentation, tandis que la démocratie semblait être caractérisée comme étant la dictature de la masse. Je me demande dans quelle mesure on n'a pas aujourd'hui affaire à une sorte de vote censitaire qui ne dirait pas son nom, comme c'était le cas à l'époque, et dans quelle mesure, effectivement, je me pose la question, est-ce que la classe politique, parmi ses cursus de formation, en fait, ne serait pas tellement habituée au fait que, bon, l'abstention étant ce qu'elle est, finalement, c'est plus intéressant que les catégories qui votent majoritairement et en masse, c'est-à-dire les diplômés, les retraités, en gros les gens qui ont du patrimoine, que ce soit intellectuel ou matériel, sont beaucoup plus intéressés par le maintien des choses telles qu'elles sont, plutôt que les classes ou les secteurs sociaux qui auraient intérêt au changement. Est-ce que finalement les politiques ne sont pas responsables de ce qu'ils semblent dénoncer quand ils disent qu'il y a trop d'abstention ?
Mais évidemment, hein, vous avez tout à fait raison. De toute façon, le personnel politique est globalement, en effet, du côté du conservatisme, alors pas forcément seulement politique, mais du conservatisme de la situation globale. Et les élections ont souvent tendance, en fait, à préserver, en fait, à ne pas introduire beaucoup de changements. Mais c'est pour cela que la notion de démocratie et la distinction république-démocratie dont vous parlez, elle est quand même très intéressante, puisque l'idée de démocratie, c'est justement d'introduire plus de monde, en fait, d'élargir vraiment le champ des participants à la politique. Hein. C'est ça qui est vraiment l'essentiel. Vraiment essentiel aujourd'hui.
Sandra, merci beaucoup. Je vous laisse rejoindre la salle. Je vous rappelle sur scène dans à peu près un quart d'heure. S'impliquer, mais pas seulement en votant. Alors, que nous racontent les nouvelles formes d'organisation, de mobilisation ? On va accueillir Manuel Cervera-Marzal, sociologue, chercheur qualifié FNRS. Donc c'est le Fonds national de recherche scientifique, c'est ça ?
Oui, c'est ça.
À l'Université Bonjour. De Liège, auteur notamment de Résister, petite histoire des luttes contemporaines, qui est paru en 2023 en collection 10-18. Et je vous laisse sous les questions expertes de Margot et de Maëwen.
Bonjour Manuel, merci d'être là. Nous, on voulait d'abord commencer avec vous pour en savoir plus sur les différentes formes de mobilisation qui émergent en ce moment et en quoi on peut les considérer comme une alternative au vote.
Alors c'est vrai qu'il y a différentes formes de mobilisation qui émergent depuis une dizaine, une vingtaine d'années. En fait, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on voit que les modes d'expression et de contestation traditionnelle dans notre démocratie, c'est-à-dire je pense essentiellement au vote, mais aussi au fait de se syndiquer, de faire grève, au fait de manifester, ces trois registres-là, ces trois répertoires connaissent une forme d'essoufflement, mais qui pour le coup, on parlait de court terme ou long terme, là c'est vraiment quelque chose qui se joue sur le long terme. J'aurais pu venir avec des graphiques pour vous montrer la hausse structurelle de l'abstention depuis 5 ou 6 décennies, pour vous montrer le déclin des effectifs syndicaux et le déclin du nombre de journées de grève aussi en France. Depuis le lendemain de la Seconde Guerre mondiale, ça a été continu, ininterrompu, sauf les années de grands mouvements sociaux, mais voilà, depuis ce temps-là. Et les manifestations, c'est pareil, c'est quelque chose. Alors les manifestations en France, il y en a de plus en plus sur le temps long, et de plus en plus de gens manifestent et se disent prêts à manifester, mais par contre, ça pèse de moins en moins, c'est de moins en moins écouté par les élus, le pouvoir politique. Je rappelle juste qu'en 1995, il suffisait d'un million de personnes dans la rue pour faire retirer la retraite sur la réforme des retraites. D'ailleurs, le Premier ministre de l'époque, Alain Juppé, avait dit « Si les syndicats mettent 1 million de personnes dans la rue, mon gouvernement ne tiendra pas ». Donc ça avait lancé, il s'était tiré une balle dans le pied, ça avait lancé un Juppéton où il fallait absolument atteindre le seuil de 1 million. Bon, 20 ans plus tard, on peut mettre 3 millions de personnes dans la rue 10 fois de suite, comme en 2019 et la réforme suivante. Ça change strictement rien pour le gouvernement. Donc voilà, le vote, le syndicalisme, la grève, les manifestations, ça s'essouffle. Et donc, assez logiquement, du coup, constatant cela, parce qu'il n'y a pas besoin, en fait, d'être sociologue, politiste ou que sais-je pour constater ça, on le sent, on le voit, on le constate, tout un chacun peut s'en apercevoir, eh bien, du coup, et j'en viens à votre question, on se tourne vers de nouvelles formes de contestation. Alors là, ça peut prendre de multiples visages, ça peut aller de l'occupation de places publiques à l'occupation des ronds-points en passant par l'occupation de zones à défendre, et je fais exprès de citer Notre-Dame-des-Landes, les Gilets jaunes et Nuit debout, parce que, alors même que la composition sociologique de ces trois mouvements est peut-être un petit peu différente, il y a quand même dans les trois cas ce recours à la forme occupation. C'est intéressant, il y a quelque chose qui se joue là, qui n'est pas tout à fait inédit, parce que dans les années 60-70, on occupait déjà, simplement on occupait des usines, mais aujourd'hui des usines, il n'y en a plus beaucoup, et on occupe... Eh ouais, exactement, on occupait le plateau des Mille Vaches, on occupait aussi bien sûr en mai 68 les universités, mais aujourd'hui si vous êtes étudiant et que vous avez essayé d'occuper votre université, vous savez que très rapidement le recteur, la présidence va appeler tout simplement le préfet pour vous faire expulser. Donc puisqu'on ne peut plus occuper les usines et les universités, voilà, on se déplace, l'occupation se déplace sur d'autres scènes. Et voilà, et parallèlement à l'occupation, on voit aussi se démultiplier des actions de désobéissance civile. Petit à petit aussi, la question du sabotage est en train de monter petit à petit à l'agenda, d'arriver à l'ordre du jour, quand on voit, alors pour l'instant, ça reste assez marginal, mais je crois qu'il se joue aujourd'hui quelque chose, qu'il y a beaucoup de choses qui se cristallisent autour de ce mode d'action, hein. Quand on voit le succès d'un livre comme celui d'Andreas Malm, « Comment saboter un pipeline », qui en fait ne vous dit pas comment saboter un pipeline, mais qui vous explique pourquoi envisager ce mode d'action lui paraît tout à fait légitime. Voilà, on sent qu'il y a des choses qui se jouent de ce côté-là. En alternative, mais alors, juste, je voudrais juste introduire une distinction entre le vote et l'élection, parce que du coup, l'élection est une forme de vote parmi d'autres, mais on peut voter pour décider si oui ou non on veut la Constitution européenne, si oui ou non on veut rétablir l'ISF. Ça, c'est on vote pour décider, alors que élire... En fait, c'est une forme de vote bien particulier qui consiste à décider qui doit décider à notre place. Et donc, en fait, décider qui doit décider, c'est justement ne plus décider. C'est en quelque sorte démissionner de son pouvoir de décision pour le confier à d'autres qui sont justement des professionnels de la chose publique.
Sauf parce qu'il y a un contrat de confiance qui fonctionne.
Alors, si justement, par exemple, les personnes qui sont élues sont...
tiennent leurs promesses,
comme voilà. Le mandat impératif le permet, mais voilà. On a construit nos régimes sur le refus explicite du mandat impératif, parce qu'on a dit que ce ne sera pas des démocraties, ce sera des républiques. Là, oui, mais en l'occurrence, aujourd'hui, les élus ne sont pas tenus par ça.
Mais du coup, comment expliquer en fait ce gain d'intérêt pour ces formes de mobilisation? Est-ce que ça présente des avantages en plus par rapport au vote traditionnel? Ou bien, au final, ça aurait des inconvénients?
Comment expliquer l'intérêt? Parce qu'effectivement, il y a un intérêt croissant pour tout ce qu'on a dit là, désobéissance civile, occupation de places publiques, etc., etc., y compris des manifestations sauvages, plutôt que des manifestations encadrées par le service d'ordre des syndicats, par la préfecture. Voilà, les manifestations sauvages, je pense aux actes des Gilets jaunes. Pourquoi il y a cet intérêt pour ça? Précisément parce que beaucoup de personnes, en tout cas parmi celles et ceux qui sont insatisfaits de la situation sociale et politique et qui se mobilisent, beaucoup de personnes constatent que les modes d'expression et de mobilisation traditionnels et légaux, j'y insiste, voter, manifester, se syndiquer, c'est légal, eh bien, sont aujourd'hui inefficaces ou en tout cas insuffisants. Et donc, on se tourne vers des modes d'action qui sont illégaux. Donc, je pense que c'est vraiment cette insatisfaction qui est qui constitue le carburant, en fait, de ces nouvelles formes de lutte.
Merci. On avait envie aussi de poser une question qui revient un peu aussi sur l'intervention de Laurent et de Sandra. C'était la question des plateformes numériques, des réseaux sociaux. Est-ce que vous pensez que c'est aussi une opportunité à saisir pour justement booster l'engagement citoyen, notamment chez les jeunes?
Oui, alors moi, je trouvais excellente la réponse que Sandra a faite tout à l'heure, en revenant un petit peu, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on entend, ce qui prédomine, c'est le discours, un peu la déploration sur les réseaux sociaux qui, voilà, permettent de faire monter le populisme, Trump, etc., etc. Et c'est vrai, et quand on voit comment justement des milliardaires comme Elon Musk, en fait, quand qu'il soit prêt à investir 40 milliards pour acquérir Twitter, et quand ensuite on voit ce qu'il en fait et ce qu'il permet depuis qu'il l'a reprise en main et qu'il a modifié les règles, quand on voit ce que ça... Très clairement, voilà, ça peut servir de canal de désinformation. Mais en même temps, il faut voir que ça a été quand même au départ, dans les années 2010, une forme de démocratisation, tout simplement, d'ouverture de la parole publique à des voix qui n'avaient précisément pas voix au chapitre. Je me rappelle avoir entendu Rokhaya Diallo expliquer que elle, mais c'est pas elle seule, Rokhaya Diallo, avant d'être invitée sur les plateaux, dans les médias, d'avoir finalement
son rond de serviette dans, sur tout un tas de chaînes d'émissions et dans tout un tas de journaux, elle a percé sur les réseaux sociaux. Quand on se souvient, MeToo, Alyssa...
c'est un hashtag,
ça, MeToo. C'est un hashtag au départ qui, en moins de 24 heures, 3 millions de femmes qui utilisent ce hashtag. MeToo n'aurait pas été ce que ça a été sans les réseaux sociaux. Et donc, on a plein de chercheurs et chercheuses dans tout un tas de disciplines qui se posent cette question centrale de savoir si les réseaux sociaux élèvent la qualité du débat démocratique ou, au contraire, lui nuisent. Il y a tellement d'études sur le sujet que, du coup, il y a des chercheurs qui font des méta-analyses de tous les articles qui ont été publiés sur cette question. Et au final, ces articles de méta-analyse qui analyse plus de 2000 études de cas justement sur, autour de cette question conclut que, en fait, c'est mi-figue, mi-raisin, c'est très ambivalent, on retrouve de tout. Et donc, la question posée à ce niveau de généralité, est-ce que les réseaux sociaux portent du tort à la démocratie ? On ne peut pas vraiment y répondre. Ça dépend de plein de facteurs plus concrets, plus contextuels qu'il faut prendre en
compte. Ça dépend entre les mains de qui c'est, mais il y a quand même la réponse d'Urida Empoli dans Les Ingénieurs du Chaos, qui n'est pas une réponse très sympa pour les réseaux sociaux quand même, et tous ces algorithmes qui sont, je vous en recommande la lecture, qui sont manipulés et qui ont aidé à l'élection de l'extrême droite en Italie, au Brexit, à l'élection de Trump, etc.
Donc ensuite, on avait une question, parce que ces nouveaux mouvements, ils souffrent quand même d'une mauvaise presse. Donc que ça soit dans l'opinion publique ou dans les médias, il y a quand même une mauvaise réputation. Enfin, je pense surtout, par exemple, à la désobéissance civile. Du coup, comment on pourrait construire une légitimité à ces mouvements ?
Sur le constat de base, je ne sais pas s'ils ont une si mauvaise réputation. C'est sûr que de la part des élus, il y a plutôt un discours qui va consister à disqualifier ce type de mouvement, parce que précisément, pour ceux qui sont élus, ça remet en cause leur monopole politique, en fait. Voilà, c'est la légitimité de la rue face à la légitimité des urnes. Donc du coup, ils vont assez facilement, tel ce ministre de l'Intérieur, parler d'écoterrorisme pour des personnes qui, en fait...
Qui
manifeste pour le climat, quoi. Donc là, effectivement, il y a des tentatives, je dirais, de disqualification, et c'est pas que symbolique. C'est aussi, il y a des politiques de criminalisation de ces actions qui sont parfois illégales, mais quand même, la plupart du temps, non violentes, en tout cas, qui portent pas atteinte à l'intégrité physique et morale de personne. Ils peuvent porter atteinte à des biens quand on sabote une méga bassine ou un pipeline. Effectivement, on s'en prend à des, ou même un distributeur automatique ou un concessionnaire automobile. On s'en prend à des biens matériels. Je suis bien d'accord, mais il n'y a pas d'atteinte à l'intégrité physique de personne. Donc il y a des politiques de criminalisation. Quand on analyse les lois antiterroristes, il y en a 14 qui sont passées ces 15 dernières années, et qu'on voit comment elles sont détournées en fait pour s'en prendre finalement aux écologistes, aux syndicalistes, quand on regarde aussi tout simplement les condamnations en fait au tribunal pour des gens qui manifestent, les interdictions de manifester. Depuis une dizaine d'années, c'est de plus en plus souvent interdit en France de manifester, alors que jusque-là c'était considéré comme une liberté de valeur constitutionnelle. On voit qu'en fait il y a une criminalisation de ces actions de désobéissance civile et plus largement de contestation. Mais moi, ce qui me frappe, c'est qu'en réalité, pour le coup, dans les enquêtes d'opinion, voilà, celles que Laurent mentionnait tout à l'heure, on voit un soutien de plus en plus massif au fil des ans pour ces actions illégales. Et même, je vais aller plus loin, et ça, c'est, à la limite, on pourrait dire que ça a quelque chose d'inquiétant, mais on voit aussi que le seuil d'acceptabilité dans la population française d'actions de violence, notamment vis-à-vis des élus, et quelque chose qui a doublé en une quinzaine d'années. Les dégradations de permanence de parlementaires qui avaient pu avoir lieu, notamment sur une quarantaine de permanence parlementaire des élus LREM pendant le mouvement des Gilets jaunes, étaient dans les enquêtes qu'on avait eues. La question, c'était, est-ce que vous comprenez ce type d'action ? On avait quasiment 40% des enquêtés qui comprenaient ce type d'action, et là aussi, c'était beaucoup plus qu'il y a une quinzaine d'années.
Ça fait beaucoup écho avec avec la discussion que nous avons eue avec Sandra sur la déconnexion, justement, entre l'électorat et ses élus. L'idée aussi pour nous, c'était de savoir votre opinion aussi sur les initiatives du gouvernement, puisque comme vous l'avez dit, le gouvernement n'est pas non plus aveugle sur cette idée qu'il y a quand même une déperdition et une déconnexion face à cette démocratie représentative. Et notamment, nous, on avait envie d'avoir votre avis justement sur les initiatives du gouvernement pour permettre davantage d'inclusion dans les décisions politiques, notamment la Convention citoyenne sur le climat. Est-ce que vous pensez que c'est une solution ?
Sandra était très 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 critique sur cette convention et ses résultats.
Alors, oui.
Elle a quand même été donnée, y compris par celles et ceux qui y ont participé, comme un modèle plutôt sympathique, sauf la fin de l'histoire, qui est qu'on n'a pas du tout fait ce qui avait été promis
il
au
avait,
départ. Quoi.
Il avait dit qu'il proposerait sans filtre à la représentation nationale, ou même sous forme de proposition de référendum, ce qui avait été décidé.
Absolument.
Et là, il ne l'a pas fait. Il ne l'a pas fait pour une raison, c'est que justement, il y avait des propositions
qui étaient
extrêmement radicales, voilà. Qui allaient bien plus loin que ce que qu'est-ce qui était dans le programme présidentiel d'Emmanuel Macron. Donc du coup, il n'a pas pu tenir sa promesse de le proposer sans filtre. Pourquoi il y a eu ces propositions ? Précisément parce que la Convention citoyenne pour le climat a été constituée d'une façon, pour le coup, très représentative de la population française dans sa diversité économique, sociale, etc. etc. Et donc, du coup, comme on avait une France en miniature, eh ben, on a eu des propositions qui échappaient à ce que Emmanuel Macron aurait voulu. Mais la Convention citoyenne pour le climat est quelque chose de très différent de ce qu'il y a eu juste avant le Grand Débat national. Et juste un mot sur le Grand Débat national pour dire que au Grand Débat national qui a été pensé par Emmanuel Macron juste après les Gilets jaunes pour regagner une forme de légitimité, ont participé très 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 massivement en fait des personnes avec ce qu'on disait tout à l'heure, en fait des retraités qui sont propriétaires de leur logement, du capital économique et culturel, et c'était pour Emmanuel Macron une façon de créer un contre-public par rapport au public des Gilets jaunes qui lui était tout à fait hostile, et d'avoir un public, en fait c'était les électeurs LREM, hein, désolé de le dire de manière un peu trop caricaturale, mais c'est les électeurs de LREM qui sont allés au Grand Débat, et d'ailleurs dans sa lettre de cadrage du Grand Débat, il mettait comme l'un des quatre thèmes qu'il fallait absolument investir la question de l'immigration, de l'identité, des frontières, alors qu'à aucun moment les Gilets jaunes n'avaient posé ces questions-là. Enfin, je me souviens qu'il y a eu des migrants qui ont été dénoncés, qu'il y a eu quelques cas d'antisémitisme, mais c'était des actions, des cas marginaux dans ce mouvement. Et Emmanuel Macron a tenté d'occulter la question sociale en ramenant, comme on le fait à chaque fois quand on est un élu d'extrême-centre, la question identitaire, nationale, etc.
Merci à toutes les deux. Est-ce qu'il y a une ou deux questions pour Manuel seul, et ensuite on va... Madame.
Oui, je reviens parce que sur la question de la représentativité des institutions françaises revient énormément dans les conversations. Et du coup, je me demandais, est-ce qu'on peut imaginer forcer une représentativité plus juste, comme ce qui a été fait dans la concertation citoyenne, en modifiant, je ne sais pas, l'accession au Parlement, en mettant des quotas, par exemple comme ce qu'on peut faire dans les entreprises. Est-ce que ça peut être une solution imaginable ?
Ben, y a une façon très simple d'avoir une assemblée à l'image d'un point de vue sociologique, un miroir en quelque sorte de la population française, parce qu'aujourd'hui par exemple il y a 20% d'ouvriers, 25% d'employés, donc 45% d'ouvriers et d'employés à l'Assemblée nationale, ils sont 2%, effectivement c'est un problème fondamental. Il y a une façon très simple de résoudre ce problème, c'est de tirer au sort en fait nos représentants plutôt que de les élire. Voilà, je pense que ça c'est assez radical, mais c'est
ce qui avait été le modèle de la convention
citoyenne pour le climat. Tirer au sort, c'est voilà, c'est quelque chose qui pourrait résoudre ce problème-là.
Est-ce qu'il y a encore une ou deux questions ? Oui, pardon, je vous avais pas vu. Excusez-moi.
Oui, ce que je voulais dire, c'est que vous avez parlé du fait que les manifestations aient été de moins en moins écoutées. On le voit aussi que on appelle assez peu les gens à voter. Enfin, il suffit pas de dire aux gens de voter pour qu'ils y aillent vraiment. Il faut leur donner envie, il faut tout ça. Donc, on n'incite pas les gens à voter. On n'écoute pas vraiment les gens quand ils vont manifester dans les rues. Donc, au final, on écoute de moins en moins les gens, finalement, de ce que j'en perçois. Pourquoi, en fait, est-ce que les dirigeants ont peur de ce que les gens peuvent penser, en fait ?
Vaste question. oui, je pense qu'ils en ont peur. Oui, en effet, il y a une crainte. Enfin, quoi, je veux dire, depuis tout à l'heure, en fait, on a donné tout un tas d'exemples dans lesquels, voilà, la césure sociologique, parce qu'il y a une vraie césure sociologique entre nos gouvernants, la moitié du gouvernement actuel est millionnaire. La moitié des gens aujourd'hui sont millionnaires au gouvernement. Les députés aujourd'hui touchent une indemnité mensuelle qui est 3 fois supérieure à celle du salaire moyen des Français. Donc, il y a une césure sociologique qui est redoublée par une césure idéologique, tout simplement. La majorité des Français, sur plein de questions, ne pensent pas à la même chose que les élus.
On a quand même beaucoup parlé des élections présidentielles du niveau national. Quand monsieur a pris la parole, qui est élu municipal, je me suis dit, bah, tiens, on va peut-être parler aussi d'autres, de la façon dont se tisse ou pas, mais en principe se tisse quand même plutôt plus la confiance avec justement les élus locaux au niveau des municipalités, des départements, des régions, et la confiance est plus forte.
Ah oui, la confiance envers les élus locaux est bien plus forte que la confiance envers les élus nationaux.
C'est-à-dire l'élection présidentielle ne résume pas les enjeux démocratiques
non,
en France.
Non.
Merci beaucoup. On remercie Manuel. Je vous redonne la parole dans quelques instants. Je voudrais que vous vous remerciez vraiment. Merci à vous deux, Maïwen, Margot. Merci à Bleuven. Je voudrais vous demander d'accueillir d'un même geste Vanessa Metou qui va me rejoindre. Voilà, Vanessa qui est juriste, qui vient du Congo-Brazzaville, qui a été lauréate d'un beau programme de jeunes leaders africains dont le nom va m'échapper, c'est YALI, l'acronyme, j'ai oublié le développement, qui a fondé une ONG qui s'appelle LONAS, qui veut dire semer ou planter en lingala, si Absolument. J'ai bien lu, militante depuis l'âge de 10 ans.
Oui.
Pas mal quand même. Et qui est en France dans le cadre de notre futur et non pas de nos futurs, qui est une opération de l'Institut français. J'ai simplement deux questions. C'est très gentil d'accepter de monter sur scène en plus. J'ai simplement deux questions. Il y en a une, alors bon, qui est un peu comment vous entendez-vous, de votre point de vue à vous, les débats tels qu'ils peuvent se formuler ici, et surtout, j'allais dire encore plus important, comment ils se formulent aujourd'hui pour la jeunesse, alors à la fois au Congo, où plus de la moitié de la population a moins de 18 ans, et en Afrique en général, jusqu'à tout récemment, vous étiez membre du Conseil consultatif de la jeunesse de l'Union africaine.
Merci pour la question. Alors, moi, j'entends bien les débats ici, ils sont super portés, mais j'ai envie de dire que vous avez plutôt la chance d'avoir de la démocratie, parce qu'ailleurs, on en a peu, sinon pas du tout. Alors, c'est un contraste à la fois de voir que cette question, elle pousse à réflexion, comme quoi, sur le continent et dans certains pays, on observe... On remplit les échéances électorales, mais le vote ne reflète pas forcément les aspirations du peuple. Alors, on se demande si est-ce que c'est parce qu'on est tombé à la fois dans un mimétisme où il fallait instaurer des démocraties, notamment avec cette forme de gouvernement, mais que dans le fond, il n'y a pas cette volonté de voir un renouvellement de la classe politique et de justement laisser l'expression populaire ou encore respecter l'expression du vote. Du coup, ça nous pose il y a un travail qui se fait avec la Fondation de l'innovation pour la démocratie à nous interroger si on parle aujourd'hui d'un phénomène de démocratie à l'africaine, parce que finalement, on change les constitutions quand il faut se maintenir au pouvoir, ou encore les résultats sont changés. C'est un autre candidat qui devait passer, mais finalement, on annonce le pouvoir en place. Et donc, on se demande s'il faut pas revenir aux pratiques démocratiques endogènes, parce que le droit coutumier est, par exemple, mieux respecté. Si vous avez un chef traditionnel, vous savez qu'il a des pouvoirs mystiques, en guillemets, dans les croyances. Ça fait qu'on a, on a plus... On le considère beaucoup plus légitime et on se dit, par exemple, faut pas voler les données publiques parce qu'on peut être sanctionné. Mais en gros, c'est pour dire qu'on s'interroge réellement sur ce qui ne va pas dans les pratiques démocratiques d'où je viens sur le continent et notamment dans les pays où on a une classe qui est ancrée au pouvoir. Donc, pour répondre à la question, du coup, il est important, et c'est là... L'un des combats que nous avons menés en République du Congo, parce que jusqu'à 2016, avant qu'on aille vers le référendum du changement de la Constitution, les jeunes n'étaient pas représentatifs. Alors, c'était les dispositions constitutionnelles étaient verrouillées de sorte que pour accéder, par exemple, être conseiller municipal ou encore l'Assemblée ou encore même la présidentielle, il fallait avoir 40 ans et plus dans un pays où près de 70% de la population était jeune. Et donc, le travail, c'est vrai qu'il y avait la question du changement de la Constitution, mais nous, ce qu'on a fait passer au niveau du Conseil national de la jeunesse dans les dispositions, c'était justement de permettre à un jeune de 18 ans d'être élu auprès d'un conseil, en tant que conseil municipal, de pouvoir être éligible en tant que représentant député et de pouvoir se présenter en tant que candidat à la présidentielle. Et là également, les montants la caution électorale était super élevée dans un pays...
Caution, c'est une somme qu'il faut vraiment verser, mettre sur un compte en banque pour pouvoir se présenter.
Exactement. Dans un pays où les jeunes travaillent travaillent à partir de 25 ans et un peu plus, et le revenu mensuel ne leur permet pas. Donc si déjà les grands partis traditionnels, eux, on ne s'identifie pas forcément à leur politique, donc vous n'avez pas le soutien des partis en tant que jeune, et vous n'avez pas le pouvoir non plus de vous organiser pour dire voilà le candidat qu'on soutient et qu'on aimerait l'accompagner pour se représenter. Donc c'était un peu le contraste entre les dispositions qui ne permettaient justement pas la représentativité des jeunes. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on a eu des jeunes qui se sont présentés justement, et aujourd'hui on a plus de jeunes conseillers municipaux à l'Assemblée. La présidentielle, ça reste encore une chance gardée, mais c'est un début. Voilà.
Bravo, merci beaucoup d'être avec nous. Et on vous retrouve à 14h30, samedi.
C'est ça.
Merci beaucoup. Merci à Vanessa. Et je vais demander à Laurent, à Sandra et à Manuel de me rejoindre et vous céder la parole pour cette fin de débat. On appelait ça un tous en scène, un méli-mélo de questions. Bref, on s'est dit que vous aviez peut-être envie de les voir dialoguer. Alice.
Merci beaucoup pour vos présentations, c'était très intéressant. Moi, j'avais une question. Vous avez souvent présenté comme alternative au vote des débats, des participations citoyennes, des manifestations, etc. Mais on n'a pas parlé d'autres modes de vote que le vote qu'on utilise actuellement. Est-ce que vous pensez qu'un vote qui ne soit plus uninominal, mais qui soit par exemple un vote où on puisse classer les candidats, où on élise plutôt des listes, etc., serait une autre solution pour inciter les gens à aller voter? Est-ce qu'ils se sentiraient plus représentés avec ce mode de scrutin?
Manuel a une réponse.
Oui, j'en suis. Ouais. J'en suis pas spécialiste, mais vous attirez notre attention à toutes et tous sur un point extrêmement important. Voilà, quand on regarde autour de nous, chez nos voisins, il y a tout un tas d'autres règles de scrutin en fait qui permettent, parce que chez nous, c'est quand même assez caricatural la façon dont les résultats sont déformés quand on se retrouve avec 60% de députés LREM en 2017, alors qu'en fait, au premier tour, LREM, ça représentait 20% des voix. Voilà, là, il y a une déformation qui est manifeste, et donc il existe tout un tas d'autres modes de scrutin qui permettent de régler ça. Mais du coup, je les connais pas, donc je vais pas en parler, mais je pense qu'on pourrait même élargir la question à celle du vote obligatoire, qui est une chose aussi qui existe, par exemple, chez nos voisins belges. Et puis, la question aussi, et c'est juste pour glisser des choses comme ça dans la discussion, mais celle de l'âge, tout simplement, auquel on a le droit de voter. Voilà, est-ce que c'est 18 ans comme aujourd'hui, est-ce qu'on ne peut pas descendre à 16 ans éventuellement? Là aussi, c'est une question vraiment ouverte, mais c'est des pistes qui me semblent tout à fait intéressantes pour régénérer ou réenchanter notre système démocratique.
Je vais juste apporter un petit prolongement. C'est vrai que sur une enquête que j'ai réalisée qui porte sur les jeunes activistes dans le mouvement climat, c'est intéressant aussi de voir comment eux-mêmes et elles-mêmes aussi sont amenés aussi à questionner aussi les décisions qui doivent être prises aussi au sein des collectifs. Donc bien sûr, ils ont des interrogations sur comment doit fonctionner la démocratie à un niveau général, mais ils en ont eux-mêmes aussi au sein même de leur collectif qui se veulent très souvent quand même très horizontaux, sans centre directeur, avec des prises de décision qui doivent être vraiment, qui doivent venir de la base en quelque sorte, et vraiment essayer de trouver le consensus pour trouver les orientations à définir sans passer par le vote. Donc c'est intéressant. Après, il y a plein de déclinaisons possibles sur lesquelles je ne vais pas revenir, mais en tout cas, on voit qu'il y a des vraies réflexions qui sont menées au sein des collectifs pour savoir comment on prend une bonne décision. Après, il y a beaucoup aussi de critiques malgré tout. C'est-à-dire qu'on voit qu'il y avait un activiste, par exemple, qui me disait qu'on est passé d'une tyrannie de la majorité, c'est-à-dire la tyrannie de la majorité qui passe par le vote, vers une tyrannie des minorités agissantes, c'est-à-dire où la décision était prise d'abord et avant tout par les activistes qui parlaient le plus fort, qui étaient les plus diplômés. Donc finalement, toute la hiérarchisation qu'on retrouvait dans la démocratie représentative, en fait. Donc eux-mêmes et elles-mêmes, en fait, retombaient dans les travers, finalement, d'une représentativité qui n'était pas, à leur sens, équilibrée, quoi.
Bonsoir à toutes et tous. J'avais une question, parce que j'avais envie tout à l'heure de répondre sur l'approche des réseaux sociaux, là, en trouvant que Sandra avait peut-être été un petit peu rapide en disant qu'il y avait un âge d'or des réseaux sociaux, qui était voilà, les réseaux sociaux qui font la révolution, avec l'exemple de la Tunisie, et puis aujourd'hui, les réseaux sociaux de Trump, quoi, en gros. Je pense que peut-être qu'on... Enfin, comme le dit Manuel, il y a beaucoup d'enquêtes aujourd'hui qui montrent que... Il y a aussi encore dans le monde contemporain un usage politique et contestataire et qu'on va appeler de gauche, hein, des réseaux sociaux, et notamment quand on regarde par exemple la participation politique On a parlé tout à l'heure de certaines fractions des classes populaires, notamment les quartiers populaires, etc. On voit que les réseaux sociaux sont des lieux de mobilisation qui sont extrêmement investis encore aujourd'hui, quoi. Et je pense que là, peut-être qu'on aurait intérêt à regarder une analyse peut-être un peu plus de classe, comme on dit, c'est-à-dire de voir aussi comment les couches populaires se saisissent encore des réseaux sociaux. Et juste la petite question que j'avais à vous poser tous les trois, mais c'était juste une question. Est-ce que vous identifiez évidemment d'autres lieux de débat politique que le vote? Sandra Logier a travaillé notamment sur les séries et la culture populaire, et donc elle peut nous dire aussi que c'est des espaces de discussion démocratique. Est-ce qu'il faut absolument opposer ces espaces nouveaux de la culture populaire au vote lui-même? Est-ce que justement on n'a pas tendance parfois à trop opposer des espaces qui dialoguent bien plus que ce qu'on pense?
Je vais répondre rapidement sur les deux points. D'abord sur les réseaux sociaux, bien entendu, ce sont des lieux aussi d'expression et de démocratisation. Et en effet, beaucoup de mouvements se sont ancrés dans ces réseaux sociaux. Donc je ne voulais pas du tout les réduire à réseaux sociaux réactionnaires. Après, je pense que quand on analyse les contenus majoritaires des réseaux sociaux, malheureusement, c'est quand même très souvent des contenus qui peuvent être sexistes, racistes, etc. et qui ont une dimension quand même parfois néfaste, qui peut-être est plus forte que la dimension positive. C'est vrai que moi, je me suis intéressée à d'autres formes de culture numérique, puisque j'ai travaillé sur les séries télévisées comme finalement une sorte de patrimoine actuel partagé et lieu de discussion politique. On le voit beaucoup avec certaines séries politiques, mais aussi avec beaucoup de séries qui servent en fait de ferment de discussion et qui créent une forme d'espace public informel. Et dans les deux cas, d'ailleurs, que ce soit les séries ou les réseaux sociaux, il y a quand même toujours une forme de méfiance par rapport à un public qui serait facilement aliéné par ces produits. Et j'essaie vraiment de montrer que, et je crois que c'est aussi une question démocratique qu'on n'a pas encore abordée, qui est la capacité en fait des citoyens à aussi finalement se rendre compte de ce qu'il y a dans ces contenus et de ne pas se laisser en fait forcément aliéner. Donc je crois qu'il faut vraiment aussi avoir confiance dans les citoyens. Mais
non, mais juste que par contre, je suis d'accord avec la proposition. Il faut chercher les lieux de politisation un peu dans des endroits qui peuvent être éloignés en fait du Palais Bourbon. Et voilà, la façon dont on peut discuter autour de séries, la façon dont, parce qu'on pointe souvent le fait que les effectifs des partis politiques et des syndicats se sont beaucoup évidés ce dernier demi-siècle. Mais à côté de ça, l'engagement au sein des associations n'a jamais été aussi fort en France. Il y a une personne sur deux qui est membre d'une association. Il y a 2 millions d'associations. Et bien sûr qu'une association sportive, culturelle, humanitaire, etc., c'est pas de la politique au sens partisan et électoral, mais il se joue là dans les discussions quotidiennes, ordinaires, des prémices du politique.
Oui, allez-y.
Je me demandais s'il pouvait pas y avoir des initiatives qui sont étudiées, comme par exemple revenu universel ou revenu minimum, je sais plus, qui permet à chacun d'avoir de quoi vivre et donc de pouvoir se consacrer à d'autres choses, et qui permettrait peut-être à pas mal de monde de s'engager dans des associations ou de se découvrir une vocation pour de la participation associative, politique ou autre, quoi. Je sais pas s'il y a des recherches là-dessus.
Bien sûr, le revenu universel, c'est une très belle proposition. Elle a été portée il y a quelques années par un candidat, Benoît Hamon, qui a eu 6% aux élections présidentielles, je vous rappelle. Donc, elle n'a pas forcément... Mais depuis, tout le monde s'est aperçu que ça serait effectivement un très bon moyen finalement, d'améliorer les conditions de vie de beaucoup de personnes et qu'ils puissent s'investir aussi dans la politique. Donc, je suis tout à fait d'accord. Mais c'est vrai que c'est pas une proposition qui est portée en fait maintenant par qui que ce soit. Sinon, pour la question du vote sanction, je pense que c'est vrai que c'est quand même arrivé récemment, que ce soit en Pologne ou en Italie avec Cinque Stelle qui n'a pas tenu ses promesses, etc. Donc en réalité, ça arrive assez fréquemment et c'est pour cela que le vote, il faut vraiment le voir comme une stratégie politique comme une autre. Il ne faut pas vraiment en faire l'idéaliser comme quelque chose de magique, mais c'est quand même un moyen d'action, comme le sabotage, comme d'autres actions dans le répertoire actuel.
Une question qui sera la dernière.
Il a été évoqué sur la dernière table ronde la possibilité de désigner des élus entre guillemets par tirage au sort. Je veux bien que vous développiez un peu parce que comme ça à première vue ça me paraît être le système le plus dangereux et le plus antidémocratique qui puisse exister. Je vais être très concret. Si je tombe malade et qu'on m'annonce qu'on va tirer mon médecin au sort dans la population, je vais être un petit peu inquiet quand même. Pourquoi ? Parce que ça demande des connaissances et des compétences. Et il me semble quand même qu'un élu, on peut espérer de lui qu'il a des connaissances et des compétences.
Oui, mais le pouvoir des plus compétents, les compétents en grec, ça se dit aristoi, en fait, le pouvoir des plus compétents, qui est la logique même qui est derrière l'élection. Si on élit des gens, c'est bien parce qu'il y a des élus, mais prenez-le au sens quasi mystique et religieux du terme, qui se séparent du reste du peuple par leurs compétences. Mais la politique, justement, c'est pas comme une... La politique n'a rien à voir avec la médecine, de même qu'elle n'a rien à voir avec la physique quantique ou que sais-je encore. La politique, c'est une compétence générale, puisqu'on est toutes et tous concernés et affectés par les décisions qui sont prises. Donc c'est pour ça qu'on devrait toutes et tous pouvoir les prendre, ces décisions. Donc l'élection, en fait, oui, l'élection, c'est un mécanisme, et ça, je suis ferme là-dessus, parce que pendant 2 millénaires... De Aristote à Montesquieu, tout le monde nous a dit que les élections, c'était un processus aristocratique. Quand les fondateurs des régimes qu'on a aujourd'hui, électoraux, professionnels, les ont mis en place aux États-Unis, en France, en Grande-Bretagne, ils luttaient contre la monarchie, mais ils luttaient aussi contre la démocratie. Ils disaient, attention, la démocratie, c'est le chaos, c'est le pouvoir des incompétents, comme vous dites, c'est la revanche des pauvres, revanchards, couteau entre les dents, etc. Nos régimes ont été bâtis, explicitement contre la démocratie, contre le tirage au sort qui était tenu pour le seul mode de désignation démocratique de nos mandants, qui n'étaient justement pas des élus. Et donc oui, revenir sur toute cette histoire, je pense que c'est important pour se défaire de cette idée que seule une minorité serait capable de décider. Je crois que ça me semble contre-intuitif. En tout cas, c'est pas le cas pour moi.
Laurent et Sandra, et ce sera le mot de la fin.
C'est très rapide, hein, c'était juste... Dans le prolongement de ce que tu dis, c'est vrai que la Convention citoyenne pour le climat, l'un des enseignements, c'était justement de montrer que des personnes qui, a priori, n'étaient pas compétentes pour répondre à ces questions, en fait, se sont formées pendant cette convention-là et ont pu aussi prendre connaissance des enjeux liés au climat, ont pu du coup prendre aussi des décisions. Et ça, c'était quand même très important. Et ça montre aussi, et on sait aussi, que le sentiment de compétence est très inégalement distribué dans la société actuelle. Et donc, c'est important aussi de donner les armes à chacun pour pouvoir participer à la vie démocratique, qui n'est pas qu'une démocratie dirigée par les élites.
Ce qui croise, ce que j'ai entendu de la critique de monsieur, puisque, comme vous le dites vous-même, ils ont été formés. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on s'est quand même dit, avant qu'ils prennent des décisions, on va quand même leur expliquer le truc parce qu'il y a une technicité, parce qu'il y a un besoin de... Enfin, je ne suis pas sûr que vous soyez si opposé que ça. Sandra, ce sera le mot de la fin.
Juste, je pense que bien sûr, chacun peut se former, les politiques aussi, enfin, l'éducation a lieu toute la vie. Toutefois, je pense que le mot démocratie signifie que c'est vraiment une capacité qui est la même chez chacun. Je crois que c'est ça, c'est vraiment ça le principe du fait que ce qui donne cette compétence, c'est le fait d'être concerné par une question. Donc là-dessus, je pense que le tirage au sort, ça pose des problèmes techniques en fait très importants. Hein. Donc moi-même, j'y crois pas. Mais par contre, l'idée qu'il faut des compétences spécifiques pour la politique, je pense qu'elle est en fait antidémocratique.
Merci beaucoup. Je voudrais qu'on remercie chaleureusement Maïwenn, Bleuenn, Margot, elles peuvent monter sur scène. L'équipe des Champs Libres, la régie, toute l'équipe d'organisation du Monde. Évidemment, nos invités. Et merci. Merci à vous aussi pour vos contributions, vos questions. Bonne soirée.